Frères et sœurs, tandis que l'hiver et la nuit enveloppent le monde petit à petit, la foi chrétienne reverbe les toits du monde dans le ciel, à l'orient. Et voici que s'approche l'heure où un enfant va nous être donné. La souveraineté repose sur ses épaules, dit le prophète. On l'appellera admirable. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alors, frères et sœurs, par ce culte, nous voulons rendre grâce. Rendre grâce pour cet événement. Rendre grâce et nous disposer à faire bon accueil à cet évangile qui prend cher au cœur de notre histoire. Nous voulons nous disposer à faire bon accueil à cette vie en plénitude, qui nous montre que la vie est possible, qu'il est possible de rester humain dans notre monde. Et nous voulons faire de notre communauté une crèche pour recevoir cela, une crèche pour prendre soin de cela, une crèche pour développer cela. Oui, nous voulons faire de notre communauté une crèche où cette vie vient au monde à nouveau, où cette lumière vient à nouveau éclairer notre histoire et nous libérer de l'obscurité. Frères et sœurs, levons-nous pour chanter la première strophe du cantique de 304. Le cantique 304 conclura notre liturgie, dont je laisserai à mon stagiaire François Bermignon le soin de dérouler les mots et les paroles qui nous seront nécessaires. Frères et sœurs,
Confesser notre foi, c'est une manière de dire oui à l'appel de Dieu, de dire oui à Dieu. Confesser notre foi, c'est dire notre adhésion à ces paroles que l'humanité a reçues et que nous transmettons de génération en génération et dans les richesses de la diversité des églises. Et voici de quelle manière, aujourd'hui, je vous propose d'exprimer notre foi en disant « Nous croyons en Dieu, Esprit éternel, Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père, et nous témoignons de ce qu'il fait pour nous. Par sa parole, il établit le monde. Il crée l'homme à son image et il le laisse libre de marcher vers la vie ou vers la mort. Dans son amour, Dieu veut sauver tous les hommes du désespoir et du péché. En Jésus-Christ, le Nazaréen, notre Seigneur crucifié et ressuscité, il est venu à nous. Il a partagé notre vie pour vaincre le péché et la mort, pour réconcilier le monde avec lui-même. Et c'est ainsi que Dieu a répandu sur nous tous son esprit. C'est ainsi qu'il crée et renouvelle son Église invisible et universelle. Il rassemble dans son alliance les croyants de tous les âges, de toutes les langues et de toutes les cultures. Amen. Frères et sœurs, prenons notre recueil de chant au cantique 302 et nous chantons les trois strophes du cantique 302.
Puissons-nous entendre une parole qui nous redresse,
et nous permette de faire face à l'avenir. Amen.
Frères et sœurs, commençons l'Avent par le début de l'Avent, avec la lecture de l'Évangile selon Luc, au premier chapitre. Je vais vous lire les versets 26 à 38. Évangile selon Luc, premier chapitre, les versets 26 à 38. C'est après que nous avons appris que Élisabeth est enceinte au bout de 6 mois. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. Il fut envoyé chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte. Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Frères et sœurs, reprenons le cantique 304 et chantons la 4e strophe de ce cantique 304. Restons assis pour chanter cette 4e strophe. Chers frères et sœurs, vous avez entendu cet ange qui dit à Marie, « Rien n'est impossible à Dieu. » Mais peut-on croire cet ange? Peut-on croire cet ange qui dit que rien n'est impossible à Dieu? Peut-on croire le messager de Dieu qui dit que rien n'est impossible à Dieu quand on voit l'état de notre monde ou qu'on examine tout simplement notre vie quotidienne? Pour le dire avec Wilfred Monod, déjà au début du XXe siècle, Dieu peut-il vraiment faire un bâton avec un seul bout? Quand on observe notre actualité, quand on regarde rétrospectivement notre histoire, si rien n'est impossible à Dieu, soit il nous a oubliés, soit le problème n'est peut-être pas du côté de Dieu, mais du nôtre. Prise hors de son contexte,
Il est vrai que cette phrase de l'ange Gabriel peut effectivement nous faire penser que Dieu peut tout faire. Ou, si j'emploie un anthropomorphisme, si j'imagine Dieu comme un être humain, nous pourrions penser que Dieu peut faire tout ce qui lui passe par la tête. Mais ce n'est pas cela dont il est question dans ce passage biblique. Et j'aimerais reprendre ce texte pour montrer que cette phrase de l'ange est à comprendre dans un contexte, dans un cadre, dans un certain périmètre. J'aimerais que nous réalisions que ce qui n'est pas impossible à Dieu, c'est de faire en sorte que ce qui peut arriver arrive effectivement. Prenons bien conscience de cela. Manifestement, Dieu veut s'incarner dans l'histoire humaine. Dieu veut partager la vie des humains au plus proche de leur existence. Et pour cela, la naissance de Jésus est envisagée comme la rencontre absolue de la condition humaine et de l'espérance divine. Dieu veut sauver les humains d'une vie qui n'en est plus une. Alors, Dieu fait surgir un être pleinement humain qui vivra pleinement l'espérance de Dieu qui veut le salut de tous. Ce qui explique que cet homme s'appellera Jésus, ce qui en hébreu veut dire l'Éternel sauve. L'Éternel sauve l'humain d'une vie qui n'en est plus une. Et prenons bien conscience que pour que cela arrive, il faut un ventre humain. C'est ce que dit notre texte en grec. Marie va concevoir dans son ventre, dit le texte grec. Et si nous voulons être au plus proche de ce texte grec, il me semble qu'il faudrait reprendre le verbe sulambano pour le traduire par quelque chose comme Marie va rassembler dans son ventre. Le texte nous dit que Marie va rassembler dans son ventre. Elle va recevoir l'ambano, plusieurs choses qu'elle va rassembler sur l'ambano. Et en rassemblant cela, elle va concevoir. Elle sera enceinte. Une enceinte contenant plusieurs choses. Vous voyez, l'évangile, c'est finalement assez simple. L'image est assez claire. C'est assez parlant. Pour dire ce qu'est la grossesse, le texte biblique ne théorise pas trop. C'est une image qui nous fait comprendre que Marie va vivre tout ce que vivent les femmes enceintes. Dieu ne choisit pas de faire venir Jésus sans un ventre qui l'accueille, et il ne choisit pas de faire venir Jésus sans plusieurs choses qui le constituent. Parce que Dieu ne peut pas faire un enfant sans que les choses se mêlent. Des corps, des paroles, des désirs, une espérance. Dieu ne peut pas faire un homme sans une humanité qui pourra le concevoir, le porter et le mettre au monde. Et voilà comment nous pouvons comprendre la limite de cette affirmation selon laquelle rien n'est impossible à Dieu. Nous pourrions la retraduire de la manière suivante. Rien que ce qui est possible à l'homme n'est impossible à Dieu. Et quand l'homme n'arrive plus à faire le béaba de l'humanité, Dieu est ce qui rend l'homme capable de l'accomplir à nouveau. Quand l'histoire de l'homme est en panne, quand l'avenir de l'homme est comme bouché, Dieu désigne ce qui relance l'histoire, ce qui ouvre à nouveau l'avenir. Mais Dieu ne crée pas à partir de rien. Dans ce texte biblique, comme dans le premier chapitre de la Genèse, Dieu ne crée pas à partir de rien. Il utilise ce qui est là, disponible. Dieu crée à partir de notre pâte humaine, même quand elle est pleine de grumeaux, même quand elle n'est pas très onctueuse. Dieu ne crée pas à partir de rien, mais à partir du tohu-bohu qui est là. Dieu crée à partir de nos situations, même lorsqu'elles sont bien chaotiques. Quand il s'agit de donner une situation de ses pleines potentialités, rien n'est impossible à Dieu.
Non seulement Dieu ne crée pas à partir de rien, mais sa puissance ne s'exprime pas sans le concours de l'homme, dit ce texte biblique, et plus précisément sans la foi des humains. Pensons à l'intégralité de l'histoire biblique. Pensons à l'histoire de l'alliance de Dieu avec les humains. Quand on pense aux difficultés pour que les humains vivent à la hauteur de l'espérance divine et à tous les efforts qu'il faut déployer pour sauver l'homme de son incapacité à être simplement heureux, on mesure qu'il en aura fallu du temps pour qu'arrive Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ n'est pas arrivé plus tôt? Est-ce qu'on n'en avait pas besoin plus tôt? Quand on regarde l'histoire biblique, est-ce qu'il n'aurait pas été un peu généreux de faire venir Jésus un peu plus tôt dans cette histoire? Dieu serait-il cruel d'avoir attendu aussi longtemps? Surtout si rien n'est impossible à Dieu. L'hypothèse qui me semble la plus possible est qu'il a fallu attendre quelqu'un comme Marie, animé d'une joie unique en son genre, pour que Jésus naisse. Encore fallait-il que quelqu'un acceptât de mettre au monde, dans les termes de Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Qui parmi nous accepterait de mettre au monde Jésus? Même sans connaître l'histoire des évangiles, mettre au monde le Fils du Très-Haut, comme si on n'avait pas déjà suffisamment de soucis comme ça. Quand Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole, ce n'est pas une parole de soumission, c'est une parole d'acceptation pleine et entière. Marie dit oui à l'ange, parce qu'elle dit oui au projet de Dieu, parce qu'elle se sent capable. Après sa rencontre avec l'ange, elle se sent capable de dire oui. Elle a suffisamment confiance en elle pour pouvoir dire oui au projet de Dieu. Et c'est ce dialogue avec l'ange qui est intéressant. C'est ce dialogue qui permet de susciter chez Marie une foi capable de dire oui, une foi capable d'adhérer au projet divin. Et la foi de Marie est absolument nécessaire pour que tout le reste de l'histoire arrive. Il fallait ce oui de Marie pour que l'histoire de la rencontre intime de Dieu avec l'homme puisse connaître ce moment ultime. Sans le oui de Marie, rien n'était possible. Rien n'est impossible à Dieu, mais pas sans le concours de Marie, ici, dans cet épisode. Il fallait ce oui de Marie, cette adhésion totale à cette perspective, pour que Dieu puisse réellement s'incarner dans l'histoire de l'humanité. On pourrait dire que la foi, c'est comme une caisse de résonance à l'espérance divine. La foi de Marie, c'est ce qui permet à la vie selon Dieu de donner toute sa démesure. Une caisse de résonance. Et la foi de Marie n'est pas simplement nécessaire pour cette histoire du salut. N'oublions pas qu'il fallait quand même aussi le oui de Joseph, dont on ne parle pas trop dans cet épisode, mais dont il est question par ailleurs. Ne l'oublions pas non plus. N'oublions pas, indépendamment de la question de Jésus, indépendamment de sa naissance, qu'il fallait aussi la foi des disciples pour que la prédication de Jésus puisse trouver suffisamment d'écho pour se transmettre de proche en proche et nous atteindre finalement. Il n'a pas suffi qu'une voix s'exprime il y a 2000 ans pour que nous puissions l'entendre aujourd'hui. Il a bien fallu une chaîne de transmission. Il a bien fallu que des gens disent oui à cette parole pour ensuite la transmettre à un autre. À une autre. Jusqu'à nous. Il fallait la foi de celles et ceux qui croisèrent la route de Jésus et qui ont affirmé un oui retentissant à la vie que Jésus proposait. Et il faut encore notre foi aujourd'hui pour que cette espérance d'une vie marquée par le bonheur et par la grâce est encore un avenir. Et là, vous comprenez bien que je compte essentiellement sur vous. Nous, on a déjà un peu notre avenir en dos. Donc c'est un peu de vous dont il est question là, dans ce texte de Marie. C'est vous, la jeune fille, qui reçoit la visite de l'ange. Et c'est à vous que va être proposé un projet auquel, en toute liberté, vous serez invité à vivre. Notre foi est requise. Elle est requise pour que la vie en Dieu puisse s'épanouir largement. Notre foi, c'est-à-dire notre attachement viscéral à ce que propose l'Évangile, c'est-à-dire une vie libre, une vie profondément marquée par un amour inconditionnel, et bien notre foi est nécessaire pour que l'Évangile ne reste pas lettre morte. Si Dieu est ce qui permet de métamorphoser des faibles moyens en de grands résultats, encore faut-il que ces faibles moyens soient là et qu'il y ait un oui qui autorise Dieu à opérer cette métamorphose. La foi, c'est le fait d'autoriser Dieu à faire plus grand que ce que nous voudrions. La foi, c'est le fait d'autoriser Dieu à faire plus amplement, plus généreusement que ce que nous ferions seuls. La foi, c'est le fait d'autoriser Dieu à faire l'impossible de toutes nos possibilités en son vie. Et c'est là que l'ange a toute sa place. Alors, il nous faut parler un peu de l'ange. Parce qu'il ne faudrait pas que vous repartiez en ayant encore l'idée que les anges sont des petits êtres entre ciel et terre, des petits êtres. Et des joues toutes joufflues, bien bouffées. Peu importe la forme de l'ange, mais pour ne pas trop tourner autour du pot, l'ange, c'est chacun de nous. Lorsqu'il va faire le travail de l'ange dont nous allons parler, nous. Ce que nous observons dans ce texte, c'est que la qualité de l'ange ne tient pas à son apparence, il tient à ce qu'il est capable de rendre possible, justement. Et ce qui fait cet ange ici, c'est de réveiller notre assouplissement. C'est de nous réveiller notre vie tranquille, routinière, gentiment assouplie. Dans ce passage biblique, l'ange Gabriel entre sans frapper, sans crier gare. Et il parle sans détour, pas de diplomatie, il y va franco. Nous pouvons même penser que l'ange impose à Marie ce qu'elle va devoir faire, ce qu'elle va devoir vivre, du coup, endurer. Mais souvenons-nous que Marie, à la fin, exprime son consentement en toute liberté, pour réaliser que l'ange ne parle pas à l'impératif, il parle à l'indicatif. Il n'impose pas, il propose, comme le plus souvent dans la Bible. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, souvenez-vous que les 10 paroles, le décalogue, n'est pas à l'impératif, mais au futur de l'impératif. Dieu n'impose pas, Dieu indique. Et le message de Dieu, Gabriel, n'oblige pas Marie à quoi que ce soit. Il lui ouvre les yeux sur une possibilité. Rien ni personne n'oblige Marie à dire oui, si ce n'est elle-même. La conscience de Marie n'est nullement violée, ni son corps d'ailleurs. Elle garde la main sur la succession des événements. Dieu propose et l'homme dispose. Rien de plus, rien de moins. Ce que fait Gabriel, c'est d'ouvrir les yeux de Marie sur ce qu'elle peut vivre. C'est un peu comme si vos parents vous disaient tout ce qu'il vous sera possible de vivre plus tard, moyennant le fait que vous disiez oui à vos études. Et quand celle qui est fiancée à Joseph, de la maison de David, dit qu'elle ne connaît pas d'homme, on a un peu envie de répondre à la place du messager divin. Et Joseph, c'est pour faire jeûner. L'ange est là pour ouvrir les yeux de son interlocutrice. L'ange est là aussi pour ressusciter son interlocutrice, la sortir de sa torpeur, de son assouplissement, pour la sortir de son demi-sommeil. Les anges sont sont ceux qui nous permettent de sortir de notre seule réalité pour mieux apprécier le réel qui est autour de nous
et qui nous échappe si souvent parce que nous avons du mal à voir le divin dans la vie. Nous sommes habitués à voir ce que nous connaissons. Nous sommes habitués à reconnaître ce que nous connaissons déjà, et c'est bien normal. Ce que nous ignorons, en général, on ne le repère pas. Or, Dieu est toujours du côté de l'inattendu. Et les messagers de Dieu ont comme pour fonction de nous aider à discerner la nouveauté de Dieu dans notre vie, dans un univers auquel nous sommes tellement habitués que nous n'y faisons plus beaucoup attention. Les anges sont là pour nous bousculer dans nos attitudes. Ils sont là pour déranger nos habitudes. Ils sont là pour nous sortir de nos ornières, des chemins tout tracés. Les anges sont comme des poteaux indicateurs qui disent qu'il y a aussi cette direction qui est possible. Et il se pourrait qu'elle ne soit pas moins intéressante que les autres. Les anges sont là pour nous faire prendre conscience qu'il y a des changements possibles, qui peuvent renouveler notre existence et celle de nos proches. Les anges sont ceux qui font découvrir des situations par lesquelles nous pouvons comprendre que nous sommes, nous aussi, capables d'innover, capables de faire preuve d'audace et de viser un peu plus haut que ce à quoi nous sommes habitués. Prenons l'exemple d'Élisabeth. Elle est vieille et elle est stérile. Et l'ange annonce à Marie qu'elle aussi attend un enfant. C'est l'argument a fortiori. Si Élisabeth, vieille et stérile, est capable de donner la vie, a fortiori, toi Marie, tu en es capable aussi. C'est l'argument a fortiori. Si vous avez été capable de faire cela, a fortiori, les autres le seront aussi. C'est un peu comme si Élisabeth avait ouvert la voie. Et Marie, du coup, savait que cette voie était ouverte et qu'elle pouvait emprunter elle aussi. Jésus, à sa manière, qui est le chemin, la vérité et la vie, ouvre le chemin pour que nous sachions qu'il est possible pour nous aussi de l'emprunter. C'est l'argument a fortiori. Là où nous pensons que ce que Jésus a fait n'appartient qu'à Jésus, les évangiles nous disent au contraire, Jésus a accompli ce que nous sommes nous-mêmes capables d'accomplir. Mais cela, c'est l'ange qui nous rend capables de le percevoir. Dieu, c'est ce qui nous rend capables d'accomplir ce que notre timidité nous empêche trop souvent d'accomplir. Et rien n'est impossible à Dieu quand il s'agit de rompre ce qui nous retient d'être fécond, d'être un peu audacieux, de porter du fruit dans les différents domaines de notre vie quotidienne. Dieu, c'est ce qui rend les personnages bibliques suffisamment confiants pour qu'ils y aillent, pour qu'ils se jettent dans l'aventure, pour qu'ils entreprennent, pour qu'ils fassent avancer l'histoire un peu plus. Et Dieu, c'est ce qui suscite des messagers de la vie, des messagers de la confiance, des messagers de l'audace, pour que nous nous sentions nous-mêmes autorisés à dire oui. Bon, vous savez, c'est assez simple finalement. Il s'agit de dire oui à la vie, mais à la vie en plénitude. Amen.
313 pour nous préparer à tout cela, les strophes 1, 2, 3 et 4. Et il s'agit pour nous de nous lever quand il dit 313, les 4 strophes.
Cheminé pendant 100 jours et 1000 km
avec un jeune délinquant en voie de réinsertion. Et donc, c'est un peu un récit de résurrection dont il sera question. Samedi à midi, c'est le foyer des jeunes travailleurs ou le foyer de la jeune fille ou la résidence Castellane qui a son repas annuel pour les différents membres et adhérents. C'est à midi. Vous avez de toute façon des informations avec cette petite feuille qui est à votre disposition à la sortie du temple, et la présidente Isabelle Romieux est à votre disposition. Le soir, ici même à 20h30, un concert du chœur universitaire de Montpellier Méditerranée, de Broadway à Piccadilly, ça sera un peu exotique, et comme vous le voyez, l'entrée est à 15€. Je pense qu'il peut y avoir de la prévente auprès du conservatoire. Dimanche prochain, notre culte à 10h30, les têtes écumènes se retrouveront ensuite à la faculté pour une séance consacrée à Bible et archéologie. Et vous pouvez également noter sur votre agenda que le 12 décembre, à 10h, à la faculté de théologie protestante de Montpellier, François Bernier soutiendra son mémoire de maîtrise sur Joseph, mais pas le même Joseph que celui dont on n'a pas parlé ce matin. Donc, jeudi 12 décembre à 10h à la faculté, vous pourrez le supporter avec fraternité. Il y a des très bons billets. Bien, puisque nous sommes dans les préventes, c'est maintenant le moment de l'offrande. Vous n'avez rien à acquérir avec cette offrande, juste donner à l'Église les moyens dont elle a besoin pour faire toutes ses bonnes œuvres et être présent auprès des familles pour témoigner de la grâce.
Alors, pour que cela soit vrai,
annonce une parole qui libère et qui renouvelle. Une parole qui nous appelle à nous ouvrir aux choses nouvelles que tu veux toujours commencer avec nous. Puissions-nous trouver les mots qui annoncent aujourd'hui la bonne nouvelle de ce royaume que tu rends accessible. Nous prions aussi pour que l'humanité ne soit pas divisée, pour que nous sachions faire œuvre de réconciliation lorsque c'est nécessaire. Cet esprit d'humilité, nous en avons besoin pour ne pas faire de notre foi en Jésus-Christ un motif de violence, et que le Christ Jésus ne devienne pas un cri de guerre ou d'exclusion. Éternel, nous demandons d'être inspirés dans notre vie quotidienne pour que nous soyons tels Bethléem, un lieu pour que puisse s'épanouir cet évangile que nous avons reçu et que nous voulons faire fructifier. Oui, Éternel, nous demandons d'être inspirés de telle sorte que nous soyons à ton image, créatifs, source d'unité et d'amour. Rends-nous capables de faire quelque chose des tohu-bohu de notre existence. Que nous soyons capables de la mettre en perspective avec l'espérance qui est notamment formulée dans cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, levons-nous pour recevoir la bénédiction de Dieu. Le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen. Et chantons la première strophe du cantique 243, cantique 243, première strophe.